du féminisme dans ta radio.
And we want revolution! Girls talk!
Superlative délice sur Antenne Doc.
Bande de connes!
Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle.
Tous les premiers dimanches du mois à 14h.
Et en rediffusion le jeudi qui suit à 14h aussi.
Ferme ta braguette!
Et prends-en de la graine.
Superlative délice.
Superlative délice. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission de Superlative délice de 2018. On vous a un petit peu délaissé ces dernières semaines, mais Superlative délice est très occupée à plein d'autres projets. Superlative délice fait des bébés, trouve du travail, est impliquée dans plein d'autres choses. Et du coup, on a un petit peu mis de côté la radio ces derniers temps, mais on revient en ce début d'année en force. Aujourd'hui, je serai toute seule avec vous. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Et il y a Fred à la technique avec moi.
Bonjour, Pauline.
Bonjour. Donc, cette première émission va être la première d'un cycle que j'aimerais bien développer un petit peu dans l'année, qui portera sur amour et sexualité en temps de guerre. On va essayer de faire un cycle un peu chouette. Donc c'est un cycle qui portera principalement sur les deux grandes guerres mondiales, mais je tâcherai, parce que j'y tiens aussi, de faire aussi des petites incursions dans d'autres conflits, à d'autres endroits du monde et à d'autres époques, notamment plus récentes. L'émission d'aujourd'hui, elle portera du coup sur les lettres d'amour en guerre, donc à savoir la correspondance amoureuse. Alors l'idée, c'est pas de rentrer dans les conséquences de la guerre sur la conjugalité, mais juste de regarder un petit peu la pratique épistolaire des amoureux que la guerre sépare. Alors c'est intéressant d'étudier les lettres parce que c'est toujours compliqué en histoire de connaître tout ce qui est de l'ordre de l'intime et du privé. Et justement, en étudiant les lettres, on peut vraiment articuler le vécu privé et individuel avec le vécu collectif. La séparation induite par la guerre va bouleverser l'organisation matrimoniale des couples, que ce soit au niveau de la répartition des tâches ou de la complémentarité économique et sociale qu'il pouvait y avoir. En tout cas, il y a beaucoup plus de choses qui vont reposer sur les femmes et désormais, les hommes vont dépendre des femmes, que ce soit pour le besoin de réconfort, mais aussi pour les colis, quoi. Tout simplement, envoyer des colis bien garnis, etc. Et du coup, ça va aboutir, et ça on le voit dans les lettres, en les étudiant, à une espèce de culpabilité partagée au sein du couple qui s'exprime, c'est-à-dire que les femmes vont culpabiliser d'être à l'abri pendant que les maris sont plutôt exposés au combat, et à l'inverse, les maris vont prendre conscience et vont prendre en compte les difficultés que les femmes ont à l'arrière. Et on voit par exemple dans les lettres d'Henri Barbusse où en même temps, d'un côté, il va réclamer beaucoup d'affection, il va être très en demande et il va réclamer beaucoup d'achats pour garnir les colis, il va lui demander d'acheter beaucoup de choses. Et en même temps, il lui dit « mais surtout, je veux pas que tu te prives pour moi ». Donc, les lettres, c'est aussi un condensé de discours contradictoires, d'injonctions contradictoires, etc. La séparation, c'est quand même la grande épreuve des amoureux en temps de guerre. Mais la particularité de cette séparation en temps de guerre, c'est qu'elle est associée très étroitement avec la peur omniprésente de la mort et de retrouvailles qui n'auront peut-être pas lieu. Du coup, il y a vraiment ce double truc de la mort qui envahit l'espace de la lettre d'amour et réciproquement la guerre meurtrière qui va envahir l'espace privé de la relation amoureuse en fait. Et les lettres de guerre, c'est ça, c'est cet aller-retour permanent. Et ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça concerne absolument toutes les classes sociales, notamment pendant la Première Guerre mondiale. La guerre va modifier les habitudes et les activités d'écriture d'absolument toutes les couches de la société, des moins lettrés aux plus lettrés. Alors, écrire des lettres, c'est un moyen de conjurer justement cette omniprésence de la mort dans la séparation. On va essayer dans un premier temps de conserver les rôles sociaux habituels qui préexistaient à la guerre. Donc l'homme va continuer à plutôt donner des ordres de loin et puis la femme à demander des conseils sur son quotidien. Mais surtout, ce qui est très présent, c'est qu'on va s'attacher très fort au quotidien, en fait, aux détails du ménage, à la banalité, en fait, aux affaires ordinaires du ménage. Et aussi, on va aussi s'attacher aux détails du passé, aux souvenirs, au bonheur passé, celui d'avant la mobilisation, celui d'avant la guerre, et que ce bonheur soit réel ou fantasmé, finalement, on va le aussi potentiellement le fantasmer parce qu'il est passé. Et ça, ça permet de camoufler ou de conjurer cette présence importante de la mort. Ça, ça fait partie des choses qui vont permettre de tenir, que ce soit à l'arrière ou au front, et qui vont maintenir parfois une forme de morale. Donc on a toujours cet aller-retour entre le passé, qui est toujours vu de toute façon comme parfait, le présent qui est plus ou moins insoutenable et qu'on va gérer comme on peut et dont on va essayer de pas trop parler, et puis un lendemain qu'on va espérer, dont on espère qu'il va simplement juste avoir lieu, et qui, pour le coup, va lui aussi être fantasmé comme quelque chose d'absolument parfait. Alors, ça, c'est ce qu'on retrouve dans les correspondances amoureuses, mais ça vaut pour les couples dont les lettres, les couples que les lettres ont renforcés ou que les lettres ont soutenus, parce que finalement, on ne retrouve pas les lettres des couples qui ont volé en éclats très rapidement au bout de quelques mois. Donc voilà, on a cette particularité-là et ce dialogue entre finalement deux solitudes. Cette solitude qui est donc le résultat de la séparation, mais comme par exemple la frustration sexuelle, qui va être une frustration qui va résulter de cette séparation. Alors, certains conjoints vont évoquer la sexualité, d'autres vont pas le faire du tout, et certains vont l'exprimer petit à petit, la guerre avançant. Mais ça vaut aussi pour un tas d'autres choses. Tout ce qui est de l'ordre de l'introspection, la séparation va pousser à ça, à exprimer ce qui est de l'ordre de l'introspection, le dire sentimental, la plainte aussi, tout ce qui est de l'ordre de l'expression de soi, de l'intimité de soi. Et cette expression, elle se construit au sein du couple et elle va poser le cadre, en fait, de ce qui peut être dit et ce qui n'est pas permis de dire. Donc, en fait, ce qui est hyper intéressant dans les correspondances amoureuses, c'est que la correspondance ne va pas révéler ce qu'est le couple. Justement, elle va le construire, puisque la séparation fait qu'on va se dévoiler et qu'on est obligé de formuler, finalement, et que, du coup, le fait de formuler, ça va produire du sentiment qui n'aurait peut-être pas été produit sans ce contexte de séparation. Et j'irais même peut-être encore plus loin, surtout pour ce qui concerne la Première Guerre mondiale, le fait qu'il y ait des correspondances systématiques dans les couples, puisque ça, on parle de milliards de lettres et on parle de millions de couples, le fait de s'écrire systématiquement et de se dévoiler, ça a ouvert une porte, une faille dans la norme conjugale qui était en vigueur à l'époque. Et du coup, ces correspondances ont introduit un modèle de couple un peu plus fondé sur l'intime, sur l'échange. Et on va beaucoup plus accorder d'importance à la complicité dans le couple. Et ça va participer petit à petit à ce qu'on passe du mariage arrangé au mariage d'amour dans le courant du siècle, progressivement, quoi. Alors, avant de passer à la suite, je vous propose d'écouter La lettre oubliée de Juliette en duo avec Guillaume Depardieu. C'est une lecture de lettres mise en chanson et je vous propose d'écouter ça.
Mon amour, ma bien-aimée, me voici trop loin de toi. Comment survivre ? Peut me l'avoir envoyé. Si tu savais quel ennui, loin de nos jeux amoureux.
Est-ce André ou est-ce Henri? Est-ce Paul aux si beaux yeux?
Rien ne distrait la folie qui m'entoure, mais rien ne peut détourner mon cœur épris.
Oh non, ça ne peut être lui.
Mon reviendrai, sois-en sûre.
Vrai, c'est la première fois que je vois cette écriture.
Ton portrait posé sur moi me protège et me rassure.
Cette lettre entre mes doigts serait-elle une imposture?
Oui, l'enfer est de ce monde, mais le pire est de compter ces heures, ces jours, ces secondes.
Chercher dans la ronde de mes amoureux passés, dans quelle amnésie profonde cet amant-là s'est noyé.
Mon amour, ma toute belle, je t'aime et je t'aime tant.
Il n'y a rien d'éternel, rien qui ne résiste au temps.
Un baiser sur ta prunelle, sur ta bouche, tout autant.
Rien qui ne résiste au temps, et la mémoire est cruelle.
Mais adieu ma vie, mon cœur, il faut bien que je m'en aille. On m'appelle, il est 6 heures. Vaille que vaille, à moins que ton artilleur n'ait pour seule funéraille que l'étranger et la peur, le vacarme et la mitraille.
Certitude affirmée d'une simple signature.
Mon amour, si d'aventure au front je devais tomber, je voudrais que tu me jures de ne jamais.
Je voudrais que tu me jures de ne jamais m'oublier.
C'était La lettre oubliée, une chanson de Juliette. Alors, on a dit tout à l'heure que dans la correspondance amoureuse, en temps de guerre, l'amour et la guerre étaient imbriqués de manière vraiment très serrée. On voit ça beaucoup dans la correspondance d'Apollinaire, donc ça concerne la Première Guerre mondiale, dans les poèmes à Lou. Les poèmes à Lou, ce sont des lettres qu'il envoyait à sa maîtresse. Il fait notamment une analogie relativement érotique entre le corps de Lou et son activité guerrière. Il va écrire notamment « Je pense à toi, mon loup, ton cœur est ma caserne, tes sens sont mes chevaux, ton souvenir est ma luzerne. » Ou encore « Ton amour est mon uniforme, tes doux baisers sont les boutons, ils brillent comme l'or et l'orne. » Donc on a une érotisation d'une réalité relativement insupportable, ce qui permet aussi de tenir. Hein. Et puis, dans cette idée que les atrocités de la guerre sont imbriquées dans le discours amoureux, on va pouvoir aussi faire passer ses propres tourments. Par exemple, Apollinaire, toujours, quand il écrit cette fois à Madeleine, puisqu'il a écrit à 2 maîtresses pendant la guerre, il lui écrit « Ma chère fée, je vous écris parmi l'horrible horreur de millions de mouches bleues. » Et il va aller aussi jusqu'à érotiser même la tranchée. À Madeleine toujours, il va écrire « Je suis la blanche tranchée au corps creux et blanc, et j'habite toute la terre dévastée. Viens avec moi, jeune, dans mon sexe qui est tout mon corps. Viens avec moi, pénètre-moi pour que je sois heureuse de volupté sanglante. Et ça, cette imbrication, c'est un phénomène qui est assez propre à la Première Guerre mondiale parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, on va plutôt associer l'amour à la liberté. L'amour est résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et on va plutôt, le sentiment amoureux sera plutôt un moteur du combat pour accéder à la lumière et à la liberté. Et il va plutôt être cet espace de liberté plus qu'un moyen de tenir en fait. Et ça, on va le retrouver aussi dans la poésie de cette époque-là, par exemple dans Les yeux d'Elsa d'Aragon, et dans toutes sortes de courriers qu'on peut encore retrouver, des cartes et des lettres, etc. Et du coup, cette vision de l'amour comme espace de liberté, c'est une approche qui va être beaucoup plus militante de la parole amoureuse. Et donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans les lettres aussi de guerre, c'est que la lettre parle de la lettre, c'est-à-dire que la lettre va devenir sujet d'elle-même. Ça montre bien, en fait, l'importance de cette conversation et du fait que cette parole circule, en fait, à un moment donné qui est assez traumatique. Par exemple, on va dire « Tiens, j'ai reçu ta lettre du temps, ça m'a fait ci », etc. Et on va se permettre des plaintes, par exemple, sur une absence de courrier, sur la lenteur de la transmission du courrier, sur des lettres qui ont pu être censurées éventuellement ou qui ont été jugées trop courtes. On a, par exemple, ce genre de plainte tout au long « J'ai lu, pour préparer cette émission, les lettres de la guerre » de Antonio Lobo Antunes, qui est donc un écrivain qui a été mobilisé en Angola, donc c'est un écrivain portugais. Il a été mobilisé en Angola pendant les guerres d'indépendance au début des années 70 et il a passé 2 ans en Angola en laissant sa femme au Portugal. Et j'ai lu sa correspondance et c'est bourré de ce genre de plaintes. Par exemple, « Mon trésor aimé, voilà quelque temps déjà que je n'ai pas reçu une lettre de toi, sans doute à cause des habituels retards du courrier dans ces contrées assez anarchiques. Aujourd'hui, il en est arrivé seulement une de ta grand-mère, ce qui a pour effet pernicieux d'augmenter encore le nombre de mes correspondants. » Etc, etc, etc. Et il déroule sa lettre, il finit par « Mon trésor, j'aime tout de toi et tu me manques énormément. Quand le courrier arrive et qu'il n'y a pas de lettre de toi, je me sens furieux et mystifié. Fais en sorte que cela ne se reproduise plus. » Voilà, et ce genre de formulation, on en retrouve énormément. Apollinaire aussi, pendant la Première Guerre mondiale, va aussi l'exprimer. « 4 jours, mon amour, pas de lettre de toi. » Le jour n'existe plus, le soleil s'est noyé, la caserne est changée en maison de l'effroi et je suis triste ainsi qu'un cheval convoyé. Alors, cette thématique, elle va aussi concerner, parce que là, je lis des extraits de gens qui ont écrit et qui sont écrivains, mais ça concerne aussi les gens, les scripteurs ordinaires, en fait, les gens qui ne sont non lettrés. Donc, par exemple, j'ai trouvé la correspondance entre Ulysse et Eugénie, qui étaient ouvriers agricoles pendant la Première Guerre, du coup. C'est assez touchant parce que, du coup, c'est compliqué à lire parce qu'il n'y a aucune ponctuation et que c'est bourré de fautes. Mais en tout cas, les lettres sont traversées exactement des mêmes choses. Ulysse, en 1916, va écrire à Eugénie « Depuis 3 jours sans nouvelles de toi, tu peux croire que ça me fait languir. Tu pourrais tout de même m'écrire tous les jours comme tu faisais avant que je vienne en permission. Je pense que tu as du travail, mais moi je t'écris tous les jours quand même que je sois sous le feu des obus. » Et ça, il va lui répéter plusieurs fois et même un an après. En effet, le moindre retard, c'est tout de suite une catastrophe intime, et ça, que ce soit pour les petites gens ou pour les intellectuels, puisqu'on va trouver ce genre de plainte aussi, par exemple, dans la correspondance entre Sartre et Beauvoir, où Sartre va dire à Simone « Mon amour, encore un jour sans lettre de vous, ce soir je suis inquiet, une lettre a pu se perdre, une autre être retardée, mais 3, c'est l'ennui de ces correspondances quotidiennes, si un jour manque, on est tout anxieux. » Ça va se retrouver aussi dans les correspondances de la Seconde Guerre mondiale. Et alors, à ce sujet, je vous conseille de regarder. On a retrouvé il y a quelques années une correspondance amoureuse assez rare entre 2 soldats. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 2 soldats britanniques qui ont du coup été séparés par leurs affectations et qui est assez intéressante. Donc il s'agit de Gilbert et Gordon. En 1939, donc dès le début de la guerre, Gordon va écrire à Gilbert « Mon chéri, je reste éveillé toute la nuit à attendre le passage du facteur en début de matinée, et quand il ne m'apporte rien venant de toi, je ne suis plus qu'un paquet de nerfs. Tout mon amour pour toujours. » Voilà, c'est très important ce rythme des lettres, parce que le problème du soldat qui est aussi un amoureux, c'est qu'en fait il ne s'appartient plus complètement, puisque en tant que soldat il appartient à l'État. Donc il est dépossédé d'une partie de lui-même, et finalement la correspondance avec l'amoureux ou l'amoureuse va le ramener à son humanité. Et du coup, à l'inverse, quand une lettre ou un colis arrive, alors là on a un déferlement de joie parfois presque un peu exagéré. C'est pour dire l'importance que cette correspondance revêt en fait, et du coup bah, ça met quand même une certaine pression sur les conjoints qui sont à l'arrière face à une demande aussi importante du soldat mobilisé. Donc je vous propose, avant de passer à la suite et la fin, d'écouter un petit morceau un peu rigolo de Barbara qui s'appelle « Veuve de guerre ».
Mon mari est mort à la guerre, je venais d'avoir 18 ans, je fus à lui seule tout entière de son vivant. Mais le jour de la fête, on me compte à fleurette, peut-être qu'on n'aurait pas pu si je n'avais pas tant bu. Comme j'étais couchée sur le ciment, on a pu facilement devenir mon amant. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver, tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Mon amant est mort à la guerre, je venais d'avoir 19 ans. Je fus à lui seule tout entière de son vivant. Mais quand j'ai appris ça, je ne sais ce qui se passa. Je ne sais quelle folie, je ne sais quelle furie. En un jour, je pris 3 amants et puis encore autant dans le même laps de temps. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver. Tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Tous les 6 sont morts à la guerre. À la guerre que font mes amants. Bientôt chez nous, il n'y aura plus guère d'hommes vivants. Mais quand un seul restera, j'épouserai celui-là. On sera enfin tranquille jusqu'au jour où nos filles en seront aussi au moment de prendre des amants comme leur pauvre maman. Si ça doit arriver, c'est que ça doit arriver. Tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure.
C'était rigolo, hein?
Merci Pauline.
C'est une belle découverte, hein, cette chanson.
Très belle découverte.
Alors je vais terminer, faire un dernier topo sur ce sujet-là en évoquant un petit peu les échanges plutôt coquins et grivois qui peuvent avoir lieu, et notamment pendant toujours cette Première Guerre mondiale. Alors il y a un truc qui a très très bien marché pendant la Première Guerre mondiale en la matière, c'est les cartes postales coquines ou les cartes postales sentimentales. On peut en retrouver plein, elles ont une iconographie particulière, et ça a très bien marché dans tous les camps et dans tous les pays. C'est une carte postale qui a le même rôle que la lettre, hein, rappeler la présence, rappeler le lien. Et alors la plupart vont être plutôt de type romantique, hein, avec une iconographie sentimentale, avec un soldat qui enlace sa belle ou qui pense à elle. On voit la photo de la femme en médaillon au-dessus de la tête du soldat pour bien montrer qu'il pense à elle, pendant qu'il est en train de lui écrire avec une belle plume qu'il n'a certainement jamais eu entre les mains dans les tranchées. Donc une iconographie un petit peu cuculapraline comme ça, et qui est plutôt dans un esprit de repos du guerrier, la femme étant le repos. Voilà. Alors petit à petit va s'imposer une certaine grivoiserie, c'est-à-dire que la Première Guerre mondiale, au début on était sûr qu'elle durerait pas, et finalement elle a duré, du coup les correspondances amoureuses se sont installées, et petit à petit la grivoiserie et l'intimité se sont un petit peu plus imposées, même si la plupart du temps ce sont des échanges tout à fait ordinaires, mais on a quand même des textes qui sont plus sensuels, voire carrément érotiques, dans lesquels ça va plutôt être la métaphore militaire qui va dominer. Parce que la Première Guerre mondiale, il y a aussi ce volet de propagande du soldat héros, donc le modèle de virilité, le modèle de bravoure du soldat. D'ailleurs, dans ces cartes postales, le soldat, il est souvent casqué. voire même habillée, avec des atours militaires très, très caractéristiques. Et on va utiliser des obscénités très faciles, mais pour autant efficaces. Hein, c'est l'histoire du bon coup de baïonnette. Où on va avoir aussi des cartes postales avec des illustrations. Donc j'étais tombée par exemple en préparant l'émission sur une carte postale qui représente les positions du tireur permissionnaire, donc où le soldat en permission va retrouver son amoureuse, et on va représenter différentes positions sexuelles, mais sous couvert de positions de tir. Alors il va y avoir le tir debout, le tir à genoux, le tir couché, etc. Et d'ailleurs, ce truc de la permission, c'est assez intéressant parce que souvent dans ces cartes-là, c'est l'idée de la permission qui est plutôt mise en valeur, mais jamais l'idée du retour définitif. Parce que ce retour, il est tellement incertain pour la plupart des soldats qu'on évoque la permission, mais pas le retour. Bon, voilà. Après, les images, en général, elles sont assez peu pornographiques. On voit des couples dans un lit, mais pas plus. Et elles sont plutôt relevées ou salées par une petite légende avec un sous-entendu grivois. Voilà. Je propose de vous lire une lettre que j'ai trouvée dans les lettres de la guerre de Antonio Lobo Antunes, donc ce soldat portugais qui est parti en Angola au début des années 70, et j'ai trouvé une lettre relativement érotique, où il fantasme pour le coup son retour. Je vais vous la lire. « Mon tendre amour, je pense à toi toujours plus, tu me manques toujours plus, j'ai envie de toi toujours plus. Quel délire ça va être en octobre. J'aimerais carrément rester au lit durant tout le mois, du matin au soir, du soir au matin, encore du matin au soir. Nous pourrions nous lever de temps en temps pour grignoter, mais rien d'autre, rien d'autre. Je voudrais tant sentir tes jambes monogrammées sur les miennes, et ta bouche, et tes cheveux. Laisse pousser tes cheveux en chignon, de manière que ton cou-tige reste dégagé, ma fleur, et que je puisse le sceller sous un collier de baisers. Et pouvoir admirer tes jolies oreilles coquillages, et pouvoir mordre ta nuque. Laisse pousser tes ongles et peins-les en rouge. Quand nous sortirons, je veux que tu aies un air digne de grande dame. Quand nous rentrerons, je veux sentir ton corps de chatte en chaleur s'enrouler sur moi, chatouiller mes reins. Je veux sentir tes deux mains sur mon visage, ta langue dans ma bouche. Je veux que tu remues et frétilles comme la queue coupée d'un lézard. Personne n'éveille mon sexe comme toi, et je t'écris ça dans un état d'excitation extrême. J'ai une hampe de drapeau au bas du ventre. Je veux des cris, je veux crier en étant en toi. Sentir nos deux vagues s'élever en même temps, se jeter l'une contre l'autre, éclater dans une explosion d'écume. Je veux mourir et naître de nouveau, puis mourir et naître encore. Tu porteras des bas noirs, des talons aiguilles, une robe aphrodisiaque, tu sentiras le parfum et la chair. Je veux te déshabiller lentement, entre des baisers, des gémissements, toucher ta nudité, poser ma main sur ton sexe, la glisser le long de tes cuisses. Je suis ton homme et je t'aime. Je t'aime tellement. Tu es si belle, si élégante. Tu as un je ne sais quoi d'aristocratique, d'échassier, d'enfant. Je veux te posséder avec une fureur de paysan chevauchant une marquise. Je veux que tu aies un regard dédaigneux et lent, le sourire rare, un mépris tout en monosyllabes. Mon amour de viser où ? Et grincer des dents, et m'étendre près de toi après la vague, justifié, paisible, heureux, jusqu'à ce que la marée remonte le long de mes jambes. Je suis ton homme, je n'aime que toi, jusqu'à la fin du monde. Je t'embrasse fort, Antonio. Et alors, à propos de correspondance plutôt érotique, j'ai également retrouvé la correspondance de deux illustres inconnus, Constant et Gabriel. Donc là, on revient sur la Première Guerre mondiale. Constant et Gabriel, c'était des marchands de vin du Jura, des commerçants du coup, et c'était des gens vraiment très 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 amoureux. Ils se sont écrits des lettres incroyables. Alors Constant va mourir au bout d'un an de guerre en Grèce, mais pendant cette année-là, ils vont s'écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup plus que la moyenne. Et clairement, ils vont avoir une partie de cette correspondance qui va être clairement érotique. Alors par exemple, Gabriel va envoyer ses poils pubiens que Constant va garder sur lui dans un médaillon contre son cœur et qu'il appellera les veuveux de sa lulette. Parce qu'ils ont donné des noms à leur sexe pour pouvoir en parler dans les lettres et éviter éventuellement la censure, le sexe de Constant étant le Lulu et le sexe de Gabriel étant la lulette. Donc il va garder ses poils pubiens contre lui, et elle, de son côté, elle va aller jusqu'à carrément demander un flacon de sperme de son amoureux pour pouvoir s'en parfumer derrière l'oreille tous les matins. Voilà, ils vont se raconter leurs rêves érotiques, ils vont aussi se donner des conseils de masturbation. Gabriel va dire à Constant « Ne te fatigue pas à faire le lulu pointu tous les jours !» Et puis ils vont aussi commenter, donc c'est toujours l'histoire de la lettre dans la lettre, ils vont commenter cet échange érotique. Gabriel va dire à Constant « Je suis très heureuse de savoir que mes lettres te font grandement jouir. Je voudrais qu'en les lisant, ton jet parte tout seul. Prends tes précautions auparavant et glisse un mouchoir contre le Lulu afin qu'il décharge à volonté sans tâcher le pantalon. » Et voilà, on voit bien que, en fait, pendant ce temps-là, pendant ce genre d'échange, la guerre disparaît. Je vais terminer cette émission qui avance pas mal, juste en résumant et en disant que finalement, l'écriture des amoureux en temps de guerre va avoir des répercussions sur comment on conçoit la parole, comment on conçoit l'écriture, comment on conçoit l'échange de l'intimité, et aussi va avoir potentiellement une influence sur la construction sociale et sexuelle des épistoliers, et aussi des couples qui vont suivre. Puisque finalement, cette image vachement véhiculée, notamment pendant la Première Guerre mondiale, du héros magnifique, de l'amant magnifique, l'héroïsation du poilu, le compagnon ou la compagne deviennent des personnages vraiment idéaux. Finalement, qu'est-ce que ces identités-là vont devenir une fois la guerre terminée et une fois arrivé le moment du retour pour les gens qui vont revenir ? On peut se poser cette question-là, en fait, aussi. Que devient cette construction-là et peut-être ce fantasme-là ? Je vous invite à lire des lectures de correspondance. Pour terminer un petit peu, je voudrais vous lire une ou deux lettres, parce que, du coup, ça fait du bien de lire des lettres d'amour. Je voulais lire celle qui est issue d'une correspondance entre Bernard et Aimé. Alors, ça se passe pendant la guerre d'Algérie, pour le coup. Bernard et Aimé s'aiment depuis pas longtemps, quand Bernard est mobilisé pour aller en Algérie. Aimé est enceinte et ils vont énormément s'écrire. Je vais lire une lettre que Bernard écrit à Aimé. « Aimé, ma biche, j'ai reçu ta lettre il y a 2 jours, celle du 20, en rentrant d'opération. » Je t'avais dans ma dernière lettre annoncé que je t'écrirais. Je n'en ai pas eu le temps. Ma perle d'ambre, ruisselante d'amour, d'espoir et de vie, je l'ai emportée bien enfouie au fond de ma poitrine pendant ces jours de ratissage. Pendant ces nuits de garde dans l'air froid, il y avait cette chaude présence contre mon visage, il y avait ton visage. Dans mon souffle, il y avait ton souffle. Et c'était ton cœur que je sentais battre dans ma poitrine. Aimé, c'était étrange cette situation de la sentinelle seule dans la nuit. Il y a autour d'elle ce paysage hostile, d'où peut à tout moment surgir la douleur. Il y a ces cris déchirants de bête, ces murmures, ces frémissements. Et puis tout à coup, le songe qui s'empare de l'esprit malgré l'être tout entier sur ses gardes. Le songe qui submerge l'esprit hallucinant de présence, à tel point que lorsque la relève arrive, fantomatique dans l'ombre, on s'étonne, comme un regret, que la faction soit terminée. J'en ai passé de ces nuits où, à tes côtés, le temps s'écoulait comme le sable fin entre les doigts de la main. Tiède et doux, doré, immémorial. On me prévient qu'une lettre de toi vient d'arriver avec un colis. Je vais aller le chercher. Tu vois, je te parlais et voici que ça arrive et ça ne m'étonnerait guère qu'un jour je puisse voir mon aimé sauter en parachute de la carlingue du petit avion. J'y vais, que dis-je, j'y cours. Alors, la fin de l'histoire sera moins heureuse parce que Aimé va accoucher en France, pendant que Bernard est en Algérie, et elle va décéder en couche. Bernard ne la reverra jamais. Je vous en propose une toute dernière, avant de se dire au revoir. C'est à nouveau une lettre de Antonio Lobo Antunes, ce soldat portugais, qui écrit à sa bien-aimée. « Mon unique et beau trésor, encore un long, triste et torride jour sans toi. À l'entrée de Gago Coutinho, il y a un panneau indiquant Lisbonne, 9600 km, Moscou, 13500 km, ce qui permet de bien mesurer l'horrible distance qui nous sépare. Je suis à présent couchée sur mon lit à t'écrire, après le déjeuner, en écoutant la musique du Moulin Rouge qui attise ma mélancolie et en pensant à toi. Le premier jour où je t'ai vue fut le jour où je suis née. Le plus curieux, c'est que toutes ces dernières nuits, j'ai rêvé de la mère. Autrement dit, il s'agit d'un personnage, sans sentiment, sans rien, sinon la mère allant et venant. J'ai tant de choses avec moi que je garde en moi que je ne suis pas malheureux. Certaines odeurs, certaines couleurs, certains moments, certains souvenirs. Une fois, par exemple, où nous nous sommes promenés sur la grande plage au soleil couchant, avec ce froid particulier de la fin d'après-midi qui annonce la nuit. Les matins sur la plage de La Rocha, le pont de Portimao, la vue par la fenêtre de la Pénina, la sensation vaguement coupable de faire avec toi quelque chose d'interdit. Je me souviens de tout, du jour de notre mariage et de l'époque où je te faisais la cour, des heures passées sur le canapé, de nos sorties le samedi avec Georges. On vit vraiment deux fois, au moment où on vit et après. Et ce qui est vraiment important, ce sont ces lueurs au fond de la mémoire. Un poème me revient à ce sujet, la fin d'un poème du poète Pedro Tamen. Je me réchauffe avec cela, contre sa chaleur, notre sang est qu'un et mûri. Bonne nuit mon amour, bonne nuit car l'aube point. Ne crois pas que je sois triste, celui qui connaît l'amour doit être satisfait. Et je suis content car la mort ne peut rien me prendre de tout ça. Comme dit Pound, ce que tu aimes vraiment ne te sera pas retiré. Ce que tu aimes vraiment restera avec toi pour toujours. Antonio. Voilà, si vous aimez les lettres d'amour, lisez-en, trouvez-vous des correspondances et sans aucun rapport avec la guerre, ce que je peux aussi vous conseiller, c'est de lire la correspondance amoureuse entre Nabokov et sa femme Vera, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et là, c'est vraiment des magnifiques lettres d'amour. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez réécouter cette émission jeudi prochain à 14h sur Antenne Doc. Vous pouvez aussi la retrouver et la télécharger quand vous voulez sur notre audioblog Superlatif Délices sur Arte Radio. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, nous écrire sur notre mail superlatifdelices@riseup.net, tout attaché et sans accent. Et je vous propose qu'on se retrouve le mois prochain, début février, pour une émission que je proposerai avec Sarah et qui portera sur genre et ville. Voilà. Merci Fred.
Merci beaucoup Pauline.
Je vous souhaite un bon mois à tous et à très bientôt.
Et on se quitte avec...
Et on se quitte avec Edwin Starr, une chanson qui s'appelle War.
Uh-huh. War. Huh. Yeah. What is it good for?
Absolutely
nothing.
Say it again, y'all.
War.
Huh. Look out.
What is it good for?
Absolutely
nothing.
Listen to me.
Oh, war.
I despise. 'Cause it means destruction of innocent lives. War means tears. 10,000 of mothers die when their sons go out to fight and lose their lives. I said, war! Good God, y'all!
What is it good for?
Absolutely!
Now
get saying again!
War!
Oh, Lord, Lord, Lord!
What is it good for?
Absolutely!
Nothing!
Listen to me!
War!
It ain't nothing but a heartbreak!
War!
Friend only! To me.
War.
It ain't nothing but a heartbreaker.
War.
It's got one friend, that's the Undertaker.
Oh, war.
Has shattered many a young man's dreams, made him disabled, bitter and mean. Life is much too short and precious to spend fighting wars each day. War can't give life, it can
to me.